Savoir et territoire pour ceux et celles qui ont séché les cours d'éducation civique. Alors, la dernière fois, nous vous avions parlé des communes et aujourd'hui, nous allons parler de l'intercommunalité. Et logiquement, on va commencer par l'histoire de l'intercommunalité, Alexei.
Voilà, tout à fait, Marie-Hélène. Donc, déjà, on va repréciser que l'intercommunalité, ce sont les différentes formes de coopération qui peuvent exister entre les communes. Alors, c'est une idée qui est finalement assez ancienne, puisqu'elle a au moins 125 ans, avec la loi du 22 mars 1890, qui met en place ce système de coopération et qui invente les syndicats intercommunaux à vocation unique.
Voilà, donc on voit que les communes ont ressenti le besoin assez tôt de s'unir pour certaines choses.
Tout à fait. Ça va prendre de l'ampleur dès les années 1920 avec de nombreux syndicats de communes qui sont créés pour gérer les activités à une échelle plus large que celle de la commune, notamment pour tout ce qui est électrification, réseau d'eau potable, assainissement.
D'accord, ce sont les premiers sujets, les premiers
tout à fait,
thèmes c'est, sur lesquels il y avait eu besoin de
mutualiser de les moyens.
D'accord. Hein, ouais.
Alors, dans les années 50 et 60, la notion d'intercommunalité, elle est renforcée avec la mise en place, par exemple, des communautés urbaines et des districts. Puis, au début des années 70, la loi, dite loi Marcellin, visait en fait la fusion de 10 000 communes au niveau de la France. En réalité, en 20 ans plus tard, il n'y en a que 1100 qui étaient fusionnés. Donc c'était un échec de cette politique de fusion des communes.
Voilà, qui était dans l'idée toujours de la suppression de nos fameuses 36 000 communes, voilà, bien connues en France.
Voilà. Et dans les années 90, en février 92, on a une loi qui crée les communautés de communes pour finalement remplacer ces fusions qui n'ont pas été réalisées et créer une sorte de nouvel échelon à une échelle plus large que celle de la simple commune. Dans la fin des années 90, les communautés d'agglomération sont également créées pour renforcer les intercommunalités. Et puis, on a une loi aussi en 2004 qui vise à améliorer le fonctionnement de ces intercoms.
Oui, finalement, depuis 92, il y a eu plusieurs lois successives qui ont au fur et à mesure été censées améliorer, affiner. D'accord. Mais on est resté sur ce double niveau, c'est-à-dire qu'on a un petit peu abandonné cette idée de supprimer des communes. Finalement.
Tout à fait. Voilà, on a finalement, au vu de la réalité, les communes n'ont pas ou peu été fusionnées. Par contre, on a créé l'intercommunalité de façon plus générale pour, donc, comme je disais tout à l'heure, créer un nouvel échelon territorial, finalement. En décembre 2010, la loi du 16 décembre 2010, qui est dite la loi de réforme des collectivités territoriales, propose d'améliorer d'abord l'intercommunalité urbaine en créant des métropoles et des pôles urbains, et surtout de parvenir à une couverture intégrale du territoire rural par des intercommunalités, et ceci avant le 1er juin 2013. C'est-à-dire qu'en décembre 2010, ça donne 3 ans pour que toutes les communes soient obligées d'appartenir à un système intercommunal.
D'accord. Donc on rend l'intercommunalité obligatoire.
Tout à fait. Et puis, la dernière loi en date, qui vient compléter la loi de décembre 2010 sur l'intercommunalité rurale notamment, qui est la loi électorale du 17 mars 2013, qui règle l'élection directe des conseillers communautaires, c'est-à-dire au conseil des intercommunautés, qui étaient auparavant élus par les conseils municipaux. On verra ça tout à l'heure,
voilà, on y
plus tard dans l'émission.
Là-dessus, oui. D'accord, donc ça c'était un peu d'histoire, donc on voit déjà que c'est ancien, on voit qu'on a renoncé un petit peu à cette histoire de suppression des communes et que finalement, ben bon an, mal an, depuis 1992, on a ces intercommunalités. Alors quand même, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les différentes formes peut-être de,
oui,
d'intercommunalité?
Tout à fait. Alors d'abord, à la base, c'est vraiment un regroupement de communes, c'est le principe vraiment de base, donc qui est à la fois une réponse aux problèmes de gestion qui seront posés aux conseils municipaux dans leur gestion quotidienne des affaires municipales, donc pour faciliter l'organisation, une mutualisation finalement des moyens locaux. Et puis c'est aussi un outil d'aménagement du territoire au plan national. C'est-à-dire qu'en fait, l'intercommunalité va tresser un maillage du territoire avec des compétences organisées pour réaliser cet aménagement du territoire qui est décidé au niveau régional, au niveau national, par rapport au développement urbain, par rapport à la dévitalisation des espaces ruraux, etc.
D'accord, donc il y avait une visée aussi vraiment d'organisation du territoire national, il n'y avait pas uniquement
tout
une visée locale à
tout
travers...
Tout à fait, ça joue sur 2 points, un point local et un point national, complètement.
D'accord, voire européen même.
Voire européen, puisque cette coopération intercommunale, qui crée un nouvel échelon territorial, finalement, prépare la France à ce qu'on appelle l'intégration européenne, c'est-à-dire à faire que tous les pays de l'Union européenne aient à peu près des entités territoriales de taille et de population plus ou moins équivalentes, ou en tout cas comparables, pour évidemment accélérer les échanges économiques et humains, qui sont une des bases de l'Union européenne. Cependant, ce principe de l'intercommunalité est théoriquement fondé, d'après le Code général des collectivités territoriales, sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. C'est-à-dire que théoriquement, ce sont les communes qui décident d'appartenir à une intercommunalité. On verra que ce n'est pas forcément toujours le cas.
Ben, en fait, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire, puisqu'on a dit que dorénavant, c'était obligatoire.
Voilà.
Celle qui décide de ne pas y être, ben, qu'est-ce qui lui arrive ?
Exactement, et puis on verra aussi éventuellement, si on a le temps, que le préfet peut obliger une commune à rentrer dans une communauté de communes, par exemple, qui l'entourerait.
Donc finalement, c'est un petit peu étonnant, c'est-à-dire que cet article est plus valable, finalement, tellement du Code général des collectivités territoriales.
Peut-être il a été mis à jour et je n'ai pas trouvé la source correcte, plus récente
étonnant.
Aussi, puisque c'est en pleine modification en d'année en année, de mois en mois.
Alors, je crois qu'il y a quand même une grosse distinction justement entre deux types d'intercommunalités, qu'on appelle les intercommunalités de gestion et de projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi
tout
il s'agit ?
Tout à fait, oui. Ce sont deux types d'objectifs très différents. Alors, l'intercommunalité de gestion, c'est finalement mettre en commun la gestion commune de certains services publics locaux, comme le ramassage des ordures ménagères, le transport urbain, ou la réalisation d'équipements locaux aussi, pour mieux répartir les coûts et profiter d'économies d'échelle en regroupant des communes, par exemple, pour faire un stade, une piscine, etc.
C'est le type le plus ancien de l'intercommunalité,
Tout à fait.
C'était souvent à partir de là que sont créés les premiers syndicats, etc.
Voilà, on parlait tout à l'heure de l'électrification ou des réseaux d'assainissement, ça rentre tout à fait là-dedans. Okay. Donc c'est une coopération intercommunale qui est relativement souple et qu'on appelle généralement comme une coopération intercommunale associative. Hein. Par contre, il y a une autre type d'intercommunalité, qui est l'intercommunalité de projet pour mener la conduite collective de projets de développement local pour le développement économique, pour l'aménagement du territoire, etc. C'est une forme de coopération intercommunale qui est beaucoup plus intégrée et qu'on appelle de l'intercommunalité fédérative.
Et ça, c'était un peu la nouveauté de la loi de 92, justement, je crois,
à
me souvenir. C'est-à-dire que c'est là qu'est arrivée cette notion d'intercommunalité de projet.
Alors, ça existait déjà dès les années 60 au niveau urbain, mais pas au niveau rural.
Ok, d'accord.
Alors sur ces deux types d'intercommunalités, de gestion et de projet, on a deux sortes de financements différents pour ces intercommunalités, hein, selon que ce soit donc de l'intercommunalité de gestion dite associative ou de l'intercommunalité de projet dite fédérative. Pour l'intercommunalité de gestion associative, ce sont des collectivités de communes sans fiscalité propre, c'est-à-dire qu'elles dépendent des contributions des membres directs.
D'accord, c'est la commune qui récupère l'impôt, en fait, et qui contribue à un certain niveau.
C'est une redistribution des recettes fiscales collectées par la commune, redistribuées pour l'intercommunalité. Donc les quotes-parts sont souvent fixés dans les statuts des établissements intercommunaux. Cette intercommunalité associative est souvent appelée finalement les syndicats intercommunaux. Hein. C'est ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Et puis on a cette intercommunalité fédérative de projet qui, elle, jouit d'un régime de fiscalité propre. C'est-à-dire qu'elle dispose elle-même de recettes fiscales, c'est-à-dire qu'elle lève des impôts.
Hein. C'est grosso modo vers ça qu'on va aujourd'hui.
C'est vers ça qu'on va aujourd'hui.
On est d'accord que pratiquement, enfin on le verra tout à l'heure un petit peu dans les chiffres, mais dans tous les cas, il y a très peu aujourd'hui d'intercommunalités associatives de créer.
Voilà.
Et par contre, on va vers de l'intercommunalité fédérative et donc à fiscalité propre.
À fiscalité directe.
D'accord. Alors, comment ça marche, la création d'une communauté de communes ?
Alors, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, enfin, il y en a un certain nombre, on le listera tout à l'heure si on a 5 minutes. On appelle ça en général un établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire avec des initiales EPCI. Alors, pour la mise en place d'un EPCI à fiscalité propre, ou d'une manière générale de tout EPCI, ça résulte d'une décision de l'État. Alors, ça peut être une loi, par exemple la loi de décembre 66 qui créait 4 communautés urbaines, par exemple. Et ça peut être de toute façon obligatoirement un arrêté préfectoral qui fixe le périmètre de cet EPCI, hein, c'est l'établissement public de coopération intercommunale, périmètre qui doit être d'un seul tenant, sans enclave, et qui fixe aussi des statuts, hein, le nom et le siège, le nombre des communes membres, l'organisation de la représentation au sein de l'organe délibérant, les compétences transférées, etc. Quoi. Cet arrêté préfectoral, dans les trois mois qui suivent, les communes concernées par cette EPCI doivent donner leur accord à la majorité qualifiée. Je ne rentrerai pas dans les détails de la majorité qualifiée. Et puis, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le préfet peut, malgré tout, ne pas donner suite à la demande de création d'un EPCI, modifier cet EPCI, par exemple en incluant une commune contre son gré au nom de l'intérêt général. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la liberté théorique des communes de choisir.
Oui, elle est théorique, on les fait voter, en fait, mais en fait, ils n'ont pas vraiment le choix.
Ben, s'il y a une commune qui se retrouve toute seule au milieu d'un EPCI, le préfet peut l'obliger à rentrer dans cet EPCI. Voilà. Ou tout simplement, le préfet peut aussi refuser la création de l'EPCI, en justifiant, justement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
D'accord.
Alors, ça, c'était pour les EPCI à fiscalité propre, plus spécifiquement. Pour ceux qui sont sans fiscalité propre, on ne dira pas à fiscalité sale, mais c'est une procédure simplifiée, avec juste la délibération de tous les conseils municipaux, et puis un arrêté préfectoral, sans arrêté de périmètre.
D'accord, donc c'est comme ça qu'on crée les CIVU, les CIVOM,
CIVU, donc syndicat intercommunal à vocation unique, CIVOM à vocation multiple, les syndicats mixtes, voilà.
D'accord, et puis, qui existent toujours. Qui ont peut-être un peu vocation à disparaître, enfin je sais pas, on en reparlera tout à l'heure.
Les CIVU, c'est certain, les CIVOM, les syndicats mixtes vont sans doute se noyer dans les autres types d'intercommunalités.
D'accord, donc on voit en fait déjà ressortir deux différences et deux orientations, on va dire. Donc l'intercommunalité de gestion et de projet, et on va plutôt vers l'intercommunalité de projet.
Tout à fait.
Et l'intercommunalité sans fiscalité propre et avec fiscalité propre, et on va plutôt vers la fiscalité propre.
Voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça, tout à fait.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les syndicats, par exemple ?
Voilà, alors sur les syndicats, c'est-à-dire les EPCI sans fiscalité propre, on disait les CIVU, les CIVOM, les syndicats mixtes et les pôles d'agglomération qui sont tout neufs, qui ont été créés il y a 3 ans. Et pour ce qui est des établissements publics de coopération intercommunale avec fiscalité propre, il y en a 5. Les communautés de communes, qui sont les plus connues, les communautés urbaines, qui sont la même chose que les communautés de communes, mais en zone urbaine, les communautés d'agglomération, là on passe vraiment dans des grosses villes, hein. À chaque fois il y a des échelons de nombre d'habitants minimum, maximum, etc. On a les syndicats d'agglomération nouvelles, pour des nouvelles villes en cours de devenir, voilà. Et puis les métropoles, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, qui n'existent pas encore.
Oui, qui sont en cours, on en parle beaucoup aujourd'hui, à Paris, Lyon.
Lyon, Marseille, en gros.
D'accord. Hein,
voilà. Et qui seront créés en 2015, 2016, 2017. Voilà.
D'accord, bon, alors ça nous concerne moins ici, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc ici, on est plutôt sur des comités de communes, forcément, en Lozère. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution ? On en a un petit peu parlé. Comment ça évolue, tout ça, cette intercommunalité, aujourd'hui ?
Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Au niveau, en tout cas, des établissements publics à fiscalité propre.
Oui, je crois que j'avais un chiffre tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai mis. C'était en 93, donc on rappelle que la loi est de 92. Je crois qu'à 93, ça correspondait à 14% des communes avec 28% de la population, alors qu'aujourd'hui, on peut dire que ça couvre...
Quasiment toutes les communes. On est à 36 050 communes pour 2013 et quasiment 61 millions d'habitants regroupés en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Alors, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire peut-être à nos auditeurs, c'est que ce n'est pas incompatible. On peut être en communauté de communes et également avoir des syndicats.
Tout à fait, tout à fait. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà. C'est dépendant des compétences qui peuvent être distribuées aux différents établissements de coopération.
Donc ici, d'ailleurs, on trouve ça sur nos territoires. On a à la fois des comités de communes, mais aussi sur des territoires identiques ou différents.
Des syndicats mixtes,
des CIVOM même encore.
Et des CIVU. Bon, les CIVU, il ne doit plus en rester beaucoup. C'est quelque chose qui date de 1890 sur le principe. C'est à vocation unique. Maintenant, on part plus sur la vocation au moins multiple et sur des compétences plurielles.
D'accord. On touche un mot de la représentation démocratique des EPCI, peut-être ?
Ah oui,
avant d'aller sur les compétences, dans ce qu'elles font, quand même, parce que c'est intéressant.
Tout à fait, oui. Alors, jusqu'en mars 2014, c'est-à-dire le mois dernier, les EPCI n'étaient pas dirigés par des représentants directement élus pour cette charge, mais c'était des élus des communes qui siégeaient au conseil intercommunal. Et en définitive, on peut dire qu'il y avait un petit peu une sorte de carence de démocratie.
D'accord, donc c'était les conseils municipaux qui élisaient leurs représentants à l'intercommunalité.
Voilà, tout à fait. Avec la loi du 16 décembre 2010, dite de réforme des collectivités territoriales, et la loi électorale du 17 mai 2013, l'élection des conseillers communautaires pour les établissements publics à fiscalité propre s'est faite en même temps que les élections des conseils municipaux. Hein, c'était la volonté finalement d'inscrire le processus de représentation dans les EPCI dans le code électoral et non plus seulement dans le code des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on donne un nouveau... On ancre de plus en plus les EPCI dans la réalité quotidienne du système de
la nation. C'est quand même une évolution, je trouve, qu'il faut un peu relativiser, parce que, enfin, du moins la portée démocratique de ce dispositif, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un scrutin fléché.
Pour les communes de plus de 1000 habitants.
Oui, c'est ça. Bah, pour les autres, ça rien n'a changé, en fait.
Si. Ah. Si, on verra un petit peu que ça a changé.
On en reparlera. Parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est un début de quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, sur le bulletin était indiqué qui des conseillers municipaux serait dans le conseil communautaire.
Tout à fait, voilà.
Donc c'est pas vraiment un choix, mais c'est une indication.
C'est pas un choix, puisque ce sont les listes qui choisissent leurs élus qui iront au conseil communautaire. Voilà, donc là, par rapport aux communes de plus de 1000 habitants, effectivement, c'est fléché, c'est bloqué, en fait. L'électeur ne peut pas se décider, vraiment, ne peut pas faire son choix propre.
Pour les petites communes,
c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'avant cette année, c'était le conseil municipal qui élisait les membres de son conseil qui allaient être conseiller communautaire. Maintenant, c'est un petit peu différent. Sont élus communautaires les élus municipaux dans l'ordre du tableau. Alors, l'ordre du tableau, ça veut dire que c'est d'abord ceux qui ont le plus de voix, mais... Si parmi ceux qui ont plus de voix, il y en a qui n'ont pas envie d'y aller, ça peut être le maire ou les adjoints, qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont plus de voix. Donc ça fait à l'intérieur des conseils municipaux des petites négociations en début de mandat pour savoir qui va être adjoint et donc qui va s'allier au conseil communautaire et après ceux qui ont récolté le plus de voix lors du panachage.
D'accord. Bon, donc une petite évolution. C'est vrai qu'il quand même, il a fallu attendre un demi-siècle pour voir évoluer assez modestement le mode de désignation des élus communautaires qui ont pourtant quand même... un pouvoir, on va dire, de plus en plus important.
Ah, tout à fait,
sur tout ce qu'on fait. Et peut-être, justement, on pourrait passer à ça. Ça fait quoi, une communauté de communes? Même si, sur Radio Bartas, on a Comcom qui nous explique régulièrement ce qu'ils font, mais enfin...
c'est toujours bien de le redire.
Voilà. Alors, les compétences, peut-être, de la communauté de communes, comment ça fonctionne?
Alors, les compétences obligatoires d'une communauté de communes, c'est avant tout l'aménagement de l'espace... Et ce sont également des actions de développement économique. Et puis, il y a des compétences, donc obligatoires que je viens de lister, ces deux-là, et des compétences facultatives. Et il faut que chaque communauté de communes choisisse au moins 4 compétences facultatives parmi une liste de 8 compétences, qui sont l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie, la voirie, les équipements culturels, sportifs et scolaires, tout ou partie de l'assainissement, et l'action sociale d'intérêt communautaire, voire l'action sociale d'intérêt départemental après une convention avec le département.
D'accord. Je te propose peut-être pour être un peu plus explicite, qu'on cite par exemple les compétences de la communauté de communes du Pays de Florac que j'ai sous les yeux.
Oui, tout à fait, c'est une bonne idée.
Voilà, bon, par exemple, dans les compétences obligatoires, il y a dans le développement économique, études, acquisition, réalisation de la ZAE de Saint-Julien-du-Gour. Ça fait partie des compétences obligatoires de la communauté de communes.
Oui, ça rentre à la fois dans les deux compétences, aménagement de l'espace et action de développement économique.
Voilà, exactement. Ou, par exemple, on a également participation au fonctionnement des offices de tourisme du territoire. Donc ça, c'est des aspects économiques. Et après, dans les optionnels, alors on a tout un tas de choses très différentes. On a par exemple quelque chose sur le logement, avec la mise en œuvre des outils de programmation et d'études dans le domaine de l'habitat, avec les OPA, etc. On peut avoir, alors après, tout un tas de choses, la création de la maison de Stevenson, par exemple, voilà, qui a été faite par la communauté de communes. On a eu la gestion de l'aérodrome sur le COS, le service de transport à la demande, qui a été mis en... Voilà, des choses quand même assez variées.
Ça peut être très varié. Voilà,
continue toujours dans le facultatif. Donc il y avait le contrat petite enfance avec la crèche, la lutte contre la pollution des eaux de rivière. Voilà, on retrouve sur l'environnement, le contrat éducatif local. Donc on voit que ça touche... finalement, beaucoup de choses.
Ah, ça touche quasiment toutes les choses de notre vie quotidienne.
Ouais, parce que du coup, je vais être un petit peu provocatrice, mais il reste quoi aux communes?
L'état civil, en tout cas.
L'état civil, oui. Donc on l'avait vu l'autre jour que c'était une... Mais bon, ensuite, est-ce qu'il reste vraiment que ça aux communes?
Non, je pense qu'il ne reste pas que ça aux communes. D'abord, les communes, on l'avait vu, sont un échelon territorial qui est ancré dans l'histoire depuis au moins le Moyen-Âge, si ce n'est avant. Ouais. Donc c'est quand même le cadre de la vie quotidienne. C'est le cadre vraiment de la vie sociale, etc. Après, à la commune en tant qu'institution, je dirais que ça va dépendre un petit peu des conseils municipaux sur les compétences qu'ils veulent, eux, s'approprier parmi celles qui... Et après, il y a celles qui sont obligées de déléguer à la communauté de communes, mais ils peuvent conserver aussi ou travailler en parallèle de la communauté de communes ou en accompagnement pour améliorer certaines choses sur la commune.
D'accord. Alors, juste peut-être, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire, mais pour conclure, peut-être... Donc, on a bien vu que maintenant, donc, on peut dire 2014, tout le territoire est couvert par les intercommunalités, des intercommunalités à fiscalité propre, des intercommunalités de projet. Est-ce que cette notion de projet, elle est vraiment appliquée dans les communautés de communes?
C'est parfois le cas lorsqu'il y a vraiment la volonté de créer quelque chose, mais on s'aperçoit quand même la plupart du temps que c'est plus... la gestion, conserver finalement ce qui existe, le maintenir, que vraiment développer de nouvelles choses.
Bah surtout aujourd'hui, peut-être avec les restrictions budgétaires, peut-être les communes se regroupent surtout pour maintenir un certain nombre de services.
Tout à fait.
Et peut-être que la notion de projet derrière, il faut la retravailler.
Oui, et puis les projets, après, il faut les avoir déjà. Ça demande aussi une réflexion à moyen terme, voire à long terme, qui... n'est pas forcément sur un territoire restreint. Souvent, ça nécessite aussi d'aller chercher d'autres compétences sur les territoires limitrophes.
Et d'ailleurs, peut-être on pourrait conclure là-dessus, il y a aussi des volontés aujourd'hui de regrouper des communautés de communes.
Tout à fait.
Pour réduire encore le nombre.
Déjà, peut-être pour faciliter aussi les prises de décision à l'intérieur des communautés de communes, hein, parce que par exemple, une petite commune de moins de 1000 habitants, c'est 7 conseillers communautaires minimum. Donc ça veut dire déjà une commune, 7 conseillers, donc ça fait des assemblées délibérantes de communautés de communes qui commencent à faire des assemblées vraiment avec un nombre de gens assez important. Donc c'est séparé en commission évidemment après pour faciliter le travail, mais c'est quand même des systèmes un peu lourds.
Donc tu penses qu'une communauté de communes, surtout, alors on va parler de nos zones rurales, hein, parce qu'après moi je connais moins zones urbaines, mais par exemple ici, c'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a le projet par exemple de rapprochement entre la communauté de communes de Florac et de Ternon-Mimente, ce sont deux petites communautés de communes on va dire, est-ce que tu penses que des rapprochements comme ça, ça peut aider dans le développement, que c'est plus facile de mettre en œuvre des projets à ce niveau-là?
Moi j'aurais tendance à imaginer que de toute façon, plus on mutualise les moyens pour répondre à des besoins communs, plus ça semble facile. Après, on sait aussi qu'il y a des problèmes d'enjeux de pouvoir politique qui font que parfois, ça complique les choses au mieux de les faciliter.
Bien, on espère vous avoir éclairé un petit peu sur les communautés de communes et l'intercommunalité en général. Je ne sais pas, la prochaine fois, on se retrouve sur quoi? On va élargir encore un petit peu plus.
On va monter d'un petit degré, on pourrait parler des cantons la fois prochaine.
Ah, des cantons. Oui, c'est une bonne idée, ça.
En plus, il y a plein de choses à dire sur les cantons.
Alors, on se donne rendez-vous dans un mois pour parler des cantons. À bientôt, au revoir.
Merci, à bientôt.